Parlons-en de la chaleur et de l'impact pour l'être humain. On parle évidemment beaucoup des centres de soins de longue durée, des patients bénéficiaires, du personnel qui doit y travailler alors qu'il n'y a pas de climatisation. Beaucoup de professeurs qui se demandent aussi, avec la COVID dans le décor, comment on intervient dans les écoles. Est-ce qu'on installe un ventilateur? Oui, non. Je rappelle que la santé publique est allée dans une espèce d'une directive assez large en disant qu'il n'y a pas d'avis précis. Il y a quelques suggestions qui sont faites, mais qu'on va l'interpréter, on va faire du cas par cas dans les établissements. Pour en parler avec nous, Daniel Gagnon, qui est chercheur à l'Institut de cardiologie de Montréal et qui s'est spécialisé donc sur toutes les questions de, qui concernent la chaleur et l'être humain. Monsieur Gagnon, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
D'abord, qu'est-ce qu'on doit savoir quand on arrive avec des périodes comme ça de chaleur élevée, là, pendant 3 jours dans des établissements où il n'y a pas de climatisation? Qu'est-ce qui est important qu'on sache? Comment on doit agir?
Bien, je pense que la première chose, c'est vraiment de porter une attention particulière aux gens qui sont dans ces établissements-là, surtout à leur santé. On sait que lors de périodes de canicule, comme qu'on va vivre durant les prochains jours, c'est vraiment les personnes âgées, au-delà de 70 ans, et surtout les gens qui ont des problèmes de santé chroniques, donc probablement la population là, qui pourrait se retrouver dans les centres de soins de longue durée, qui sont vraiment les plus à risque de se retrouver à l'hôpital ou de décéder lors des canicules. Donc, je pense que j'invite en fait les gens qui travaillent dans ces milieux-là à vraiment porter une attention particulière là, à la santé des résidents.
Comment, en vieillissant, le corps humain réagit face à la chaleur? J'imagine qu'il y a une différence quand on a 20-25 ans ou quand on a 70 ans.
Absolument. En fait, lorsque l'on vieillit, notre corps devient moins efficace à perdre de la chaleur ou à échanger de la chaleur avec l'environnement. C'est surtout au niveau de la production de sueur. Donc, la production de sueur, c'est vraiment notre mécanisme clé pour perdre de la chaleur lorsqu'il fait chaud. Puis, lorsque l'on vieillit, bien, notre corps il est moins capable d'en produire, donc peut-être moins apte à se défendre lors de périodes de chaleur intense.
OK. Quand on revient là, sur les CHSLD, même hier, on soulevait une réalité là, qui est celle de du côté vieillissant des infrastructures, pour ne pas dire négligé, que le système électrique ou de ventilation ne peut pas en prendre. Est-ce qu'il y a moyen, selon vous, d'installer des équipements temporaires, je ne sais pas, des génératrices, pour essayer d'amener un peu d'air frais dans la place?
Oui, ça, c'est une bonne question. C'est certain que l'air climatisé, c'est la méthode la plus efficace pour protéger les populations vulnérables lors des canicules. Donc, s'il y a des mesures temporaires qui peuvent être mises en place comme ça, c'est certain que c'est idéal. À savoir si le réseau électrique ou l'installation génératrice, c'est faisable ou non, je ne pourrais pas vous le dire exactement, mais s'il y a moyen de rafraîchir un petit peu la pièce, c'est certain que ça va faire une différence. Puis nous, en fait, d'un point de vue plus de recherche, en ce moment, on s'intéresse beaucoup à des alternatives à l'air climatisé, justement pour un peu réduire notre dépendance sur l'air climatisé, ou au moins en réduire son utilisation. Puis ce qui est important, vraiment, nous, ce qu'on voit en laboratoire, c'est qu'il faut vraiment assurer une bonne circulation d'air. Là, à voir si c'est compatible là, avec la situation qui englobe la COVID, c'est une autre chose. Mais nous, ce qu'on utilise ou ce qu'on préconise en ce moment en recherche, c'est vraiment l'utilisation d'un ventilateur, donc juste un ventilateur qui pourrait s'acheter n'importe où en magasin. Déjà, d'assurer une bonne circulation d'air dans une pièce, ça va vraiment aider le corps à échanger de la chaleur avec l'environnement, puis à garder le corps au frais.
Deux questions. La première, concernant la nourriture. Parfois, dans les établissements, les menus sont faits à l'avance. On ne tient pas compte toujours de la réalité de la météo. Puis je me souviens dans le passé de cas où on servait, disons, des plats un peu lourds là, durant des périodes chaudes d'été. Qu'est-ce que vous recommandez? Qu'est-ce qu'on doit manger ou en même temps, qu'est-ce qu'on doit éviter de manger?
Oui, c'est certain que lorsqu'on mange un peu l'eau, notre corps doit travailler un petit peu plus fort pour au niveau de la digestion. Puis ça crée un peu une chaleur interne. Mais pour être bien honnête, c'est pas quelque chose qui est nécessairement très préoccupant. C'est peut-être plus d'un point de vue appétit. Souvent, quand il fait chaud, il y a certaines personnes, là, ça peut couper un peu l'appétit. Donc, des repas un peu légers, ça peut mieux passer. Mais ce qui est vraiment important, c'est plus d'assurer d'avoir assez de liquide, donc de fluide, pour maintenir une bonne hydratation. Donc, s'il fait chaud, c'est certain que le corps va transpirer, ce qui est une réponse tout à fait normale et qui est absolument nécessaire. mais ça vient au coût de perdre un peu de liquide corporel. Donc, il faut s'assurer qu'il y ait suffisamment de liquide dans l'alimentation au cours de la journée pour éviter qu'il y ait déshydratation, qui ça, en soi, peut entraîner des complications pour la santé.
OK. Pour le personnel qui doit travailler, on le disait, avec des pièces d'équipement, donc dans des endroits qui, malheureusement, sont pas très ventilés, il fait chaud, le nombre de pauses doit augmenter. J'en parlais avec le Dr Weiss tantôt. Est-ce qu'on a des choses à faire, vous croyez, pour, je dirais, se rafraîchir quand même le mieux possible dans de telles conditions?
Oui, absolument. Je pense que le augmenter la fréquence des pauses, c'est vraiment la méthode probablement la plus efficace, si c'est possible. Évidemment, d'enlever le plus qui est permis là, de l'équipement de protection. L'équipement de protection, ça crée vraiment une barrière qui empêche les échanges de chaleur entre le corps et l'environnement. Donc, le personnel, en faisant le même travail qu'ils font normalement, vont ressentir certainement la chaleur beaucoup plus au cours des prochains jours. Cela dit, les chansons que, en général, un corps en santé est capable de se défendre très bien contre des chaleurs, même contre celles qu'on va vivre durant les prochains jours. Donc, c'est juste que ça va être beaucoup plus inconfortable. Donc, d'augmenter la fréquence des pauses, de peut-être pouvoir enlever certaines parties de l'équipement de protection. Puis même, nous, une méthode que l'on voit qui est très efficace en laboratoire, c'est de vaporiser la peau avec de l'eau. Ça peut aider, ça donne un rafraîchissement qui est un petit peu instantané, mais lorsque l'eau qui est placée sur la peau s'évapore, ben ça permet au corps de perdre de la chaleur également. Donc, ça pourrait être efficace. Donc, c'est juste des petits trucs qui pourraient peut-être aider là, à mieux tolérer la chaleur lors des prochains jours.
Merci, M. Gagnon. Bonne journée à vous.
Merci à vous.
Au revoir.
Bonne journée.
Daniel Gagnon est chercheur à l'Institut de cardiologie de Montréal.